Europe 1. On de Latte raconte. Christophe On de Latte.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est absolument stupéfiante et terrifiante. C'est l'histoire de parents qui, un jour, amènent leur fille de 3 mois à l'hôpital et qui se retrouvent accusés de l'avoir battue. Ils vont mettre plus de 3 ans à prouver leur innocence. Ils seront victimes pendant ces 3 années de dysfonctionnements majeurs du système judiciaire. Et pendant ce temps-là, bien sûr, on leur a retiré leur petite fille et on l'a placée en famille d'accueil. Cette histoire, ils en ont fait un livre, sorti chez Michel Lafon, « Plus jamais sans toi, Luna », dont bien sûr j'ai tiré mon récit, et ils sont là, avec moi, cet après-midi. Bonjour Sabrina Bombard.
Bonjour.
Et bonjour Johan Bombard.
Bonjour.
Ce qui vous est arrivé est absolument incroyable, d'un bout à l'autre. Et vous serez là tout à l'heure pour compléter cette histoire que voici. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe On de Latte.
Voilà comment commence cette histoire de fou. Un jour de février 2012, à Nancy, deux jeunes parents, Sabrina 18 ans et Johan 22 ans, emmènent leur petite fille de 3 mois, Luna, chez le pédiatre. Ils sont tout jeunes, ils ont encore des têtes de gamins. C'est leur premier enfant, ils sont inquiets.
Docteur, on vient vous voir parce que Luna, elle vomit tout le temps. À chaque fois qu'on lui donne la tétée, elle vomit. Ça fait 3 jours et... Du coup, elle est épuisée, elle dort toute la journée.
Le pédiatre ausculte le bébé.
C'est inquiétant, hein. Il faut la faire hospitaliser maintenant. J'appelle le SAMU.
L'ambulance est là 5 minutes après. Direction les urgences pédiatriques du CHU de Nancy. À l'arrivée, une infirmière pose les questions d'usage à la maman.
Des antécédents médicaux dans votre famille, à votre connaissance? Oui. Moi, je suis porteuse d'un angioœdème de bradykinique, de type 1. Ok, c'est noté. Écoutez, installez-vous dans la salle d'attente et on vous tient au courant.
Pour votre gouverne, un angioœdème, c'est une maladie du sang, héréditaire, qui touche surtout les femmes. Ça se manifeste par des crises d'œdème, des poches d'eau qui s'infiltrent sous les tissus, sur le visage, sur les bras, sur la poitrine, sur le dos, et aussi dans l'estomac et les poumons, et là, c'est plus grave. Sabrina, la maman, a hérité ça de sa mère et sa sœur, là aussi. Et donc, Sabrina et Johan attendent dans cette salle d'attente pendant 3 heures. Vous imaginez le décor, les murs bleu pâle, le néon qui clignote, cette odeur d'hôpital. 3 heures et aucune nouvelle. Et puis au bout de 3 heures, 2 femmes en blouse blanche viennent leur parler.
Comment s'est passée votre grossesse? Vous allaitez le bébé? Oui. Vous ne croyez pas que Luna peut avoir la même maladie que moi? Un angioœdème? Ah non, 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 ça n'est pas ça. Elle est beaucoup trop jeune. Un angioœdème à 3 mois. Non.
Et elles s'en vont. Et 1 heure plus tard, on vient les voir.
Voilà. Votre fille est en réanimation. Elle a un grave problème respiratoire et aussi un œdème sur le visage, sur le côté gauche. Un œdème assez massif, hein, violacé. Est-ce que le pronostic vital est engagé? Oui. Il faut attendre, je suis désolé.
Et il s'écoule encore de longues heures avant qu'on leur permette de voir Luna. Enfin, en réanimation, plongée dans un coma artificiel avec des tuyaux qui sortent de tous les côtés et son petit visage violacé sur tout le côté gauche.
Écoutez, je vous conseille de rentrer chez vous, ça va être long. Allez vous reposer un peu, on vous appellera s'il y a du nouveau.
C'est pas facile, ça. Rentrer en laissant son bébé dans cet état. Mais bon, il rentre en tram jusqu'à Saint-Max, dans la banlieue de Nancy. Et là, dans le tram, Sabrina, la maman, est prise de nausées. Elle descend plusieurs fois pour vomir. Elle est en train de faire une crise d'angioœdème. Cette maladie dont elle a parlé aux infirmières. C'est dingue. À 5 heures du matin, il faut l'hospitaliser à son tour, dans le même hôpital de Nancy. Elle, en gastro-entérologie, et sa petite fille Luna, en réanimation pédiatrique. Et au bout de quelques jours, Sabrina rentre chez elle, mais pas Luna, qui reste en observation. Sabrina vient la voir tous les jours. Et un jour, le patron de la réa lui dit « Madame, nous pensons que votre fille Luna est victime de maltraitance. Et donc nous avons fait un signalement au procureur de la République. Attendez-vous donc à être convoqué par la brigade des mineurs. » De maltraitance ? Mais il n'y a jamais eu de maltraitance. Jamais. Vous avez vu dans quel état elle était. Le signalement est plus que justifié. Voilà comment commence cette histoire. Les médecins du CHU de Nancy pensent que Sabrina et Johan ont frappé leur petite fille. Les salauds. Le 15 février 2012, dans l'après-midi, Johan et Sabrina sont chez eux, dans leur studio à Saint-Max.
Brigade des mineurs.
Et ils se retrouvent face à quatre policiers. Une grande dame blonde, un jeune avec une petite moustache, un baraqué avec un blouson de cuir Havane et un plus vieux avec un air rusé.
Vous êtes Ditch, Sabrina ? Et vous, bombarde Johan ? Nous avons un mandat d'amener vous concernant. Il faut nous suivre à l'hôtel de police, s'il vous plaît.
Pourquoi ?
Une affaire de violence sur votre fille, madame. Luna.
Au commissariat, Johan comprend tout de suite que son profil ne va pas arranger les choses. Il a déjà été condamné, Johan, pour des violences contre sa femme. Pas celle-là, celle d'avant, avec laquelle il a aussi une petite fille. Il a pris un mois avec sursis. Et il voit bien la logique qui s'installe. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui frappe sa femme, frappe sa fille. Et pour couronner le tout, son métier c'est DJ. DJ dans les boîtes de nuit de Nancy, ça fait moins sérieux qu'employé de la poste. C'est clair. Donc, il est mal barré.
Vous êtes placé en garde à vue pour violence sur mineur de moins de 15 ans par ascendant. Vous avez le droit de désigner un avocat.
Pas besoin d'avocat ? Je suis innocent.
Pas d'avocat ? Excellent. Alors c'est parti.
Comment expliquez-vous ces hématomes sur votre fille ?
Ce sont des œdèmes qu'a ma fille. C'est pas des hématomes. Des œdèmes, ce sont des poches d'os. C'est pas du sang. Ce sont pas des traces de coups. Sa mère a la même maladie.
Alors les policiers changent de tactique.
Ok, c'est pas toi. Mais la mère de la petite, elle a peut-être fait une connerie. T'es pas toujours avec elle. Elle a pu avoir un geste malheureux. Elle a quel âge ?
18 ans.
Eh ben voilà, tu vois bien. C'est encore une gosse et à cet âge, on sait pas toujours s'y prendre. Un faux mouvement, le bébé tombe par terre, c'est vite arrivé.
Mais le pédiatre n'a vu aucune bosse, aucun hématome. Demandez au médecin de faire un test. Il faut savoir si la petite a la même maladie que sa mère.
Quel genre de test ?
Juste une prise de sang, et après c'est analysé dans un labo de Grenoble.
Pendant ce temps-là, Sabrina se retrouve elle aussi en garde à vue dans le bureau d'à côté.
On a le droit aux séries policières, hein, clairement, du rôle du gentil flic, au méchant flic, la police des mineurs qui vient vous apporter une cigarette en disant « Ah, vous savez, dites-le que c'est un accident, comme ça, votre fille, on vous la retire 6 mois, et puis après on vous la redonne, il n'y a pas de souci. »
Sabrina tient le même discours que Johan.
Je suis sûr que Luna a la même maladie que moi et que ma mère et que ma sœur.
Nous savons que votre copain joue à faire l'avion avec la petite. Vous trouvez ça normal qu'il jongle avec le bébé ?
Mais elle n'a pas été blessée ! Elle n'a pas été blessée !
Et les voilà tous les deux en cellule pour la nuit. Une pièce sans fenêtre, un bafflant en béton en guise de lit, pas de matelas bien sûr, ni d'oreiller. Et une couverture qui pue. Une garde à vue, en France, en 2012. Et le lendemain, retour dans le bureau, et ça recommence.
Vous avez dû gamberger cette nuit. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait à cette petite de 3 mois ?
Mais au lieu de me torturer avec vos divagations, Pourquoi est-ce que vous vérifiez pas si Luna a la même maladie que moi ?
Et là, la policière qui interroge Sabrina déroule sur la table une série de photos de Luna. Une vingtaine de clichés, visage gonflé, joues tuméfiées. Sabrina éclate en sanglots.
Des larmes de crocodile. J'en ai vu d'autres.
Arrêtez de nier l'évidence. Pour que la petite soit dans cet état, il y a forcément eu quelque chose.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'a rien fait, rien.
Et là, le substitut du procureur prolonge la garde à vue de 24 heures. Et là, ils prennent un avocat, commis d'office. Deuxième nuit en cellule. Et le lendemain matin, ils s'attendent à être déférés chez le juge, à être mis en examen, et au lieu de ça, un policier leur tend un papier et leur dit « Signé là et là. »
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que vous êtes libre. Vous pouvez y aller. Allez, cassez-vous. Ils n'en reviennent pas. Vu le ton que prenaient les interrogatoires, ils s'attendaient au pire. Et là, ils rentrent chez eux, en tram. Le temps d'une douche, et Sabrina fonce à l'hôpital pour aller voir Luna. Et ouf, elle va mieux. Elle est sortie du coma, elle a été extubée, son visage est redevenu normal. Et Sabrina revient le lendemain et les jours qui suivent, et dans son esprit, tout va bien. Et puis un matin, elle et Johan sont convoqués par l'assistante sociale de l'hôpital.
Alors voilà, il y a une ordonnance de placement provisoire de 15 jours pour votre fille Luna. À la fin de ce délai, une nouvelle ordonnance sera rendue.
Vous voulez dire qu'elle rentrera pas avec nous ?
Non. Elle va être placée en famille d'accueil.
Mais pourquoi ? On a été blanchis, on est allé à la police, ils nous ont relâchés.
Le substitut du procureur a statué. Principe de précaution. C'est donc une famille d'accueil qui va venir chercher Luna à l'hôpital dans une semaine. Et pas sa maman. Et arrive le jour, le 1er mars 2012, où la famille d'accueil, désignée par l'aide sociale à l'enfance, doit venir chercher le bébé. Ce matin-là, Sabrina n'a pas le droit d'être là, mais à 7h, elle est dans la chambre à l'hôpital. Elle attend. Et à midi, arrive une petite femme blonde. C'est elle. Le contact entre les deux femmes est glacial. La femme s'avance vers le berceau et Sabrina lui dit
« Je vais la porter moi-même. »
Elles descendent ensemble sur le parking de l'hôpital. Sabrina installe son bébé dans la voiture. Elle l'embrasse et elle ferme la portière. Et la voiture s'éloigne lentement et Sabrina éclate en sanglots. Même si dans sa tête, elle se dit que c'est provisoire. Provisoire. Deux semaines plus tard, le placement est prolongé de 6 mois. Johan et Sabrina auront tout juste droit à une visite par semaine et en présence d'une assistante sociale. Une visite juste pour se briser le cœur. Et là, les parents, qui pensaient être sortis d'affaires sur le plan judiciaire, vont avoir une sacrée surprise. Le 26 juin 2012, ils sont convoqués par un juge d'instruction.
Je vous mets en examen pour violence sur mineur.
Et puis plus rien. Le dossier prend la poussière pendant plus d'un an. Et pendant ce temps-là, Luna est toujours placée, même si maintenant, les parents ont le droit de la voir 2 fois 2 heures par semaine. Et de temps en temps chez eux, mais toujours en présence de l'assistante sociale. Et puis en septembre 2013, ça bouge enfin. Mais pas pour le meilleur, pour le pire. Le juge d'instruction a demandé des expertises. Ah, les experts. Ils font la pluie et le beau temps dans la justice française, mais ils se trompent souvent. Croyez-moi. Un premier expert conclut que Luna présente des troubles d'origine psychologique. des troubles réactionnels à des traumatismes ayant eu lieu avant son placement. En clair, des traumatismes dus aux parents. Comment devine-t-il ça sur un bébé de 1 an et demi? Ne cherchez pas, il est expert, il sait. Le deuxième expert est un pédiatre. Luna souffre-t-elle de la même maladie que sa mère? Un angio-œdème, ce qui pourrait expliquer les hématomes. Réponse? Non. Il dit non, c'est qu'il a pratiqué un test sanguin. Pas du tout. Il dit non, comme ses collègues pédiatres de l'hôpital de Nancy, parce que la gamine est trop petite pour développer des angio-œdèmes. Ah, le corporatisme. En revanche, l'enquête sociale effectuée auprès des parents leur est plutôt favorable. Le couple fait preuve d'une grande patience auprès des enfants, ils ne s'énervent pas, la relation mère-fille est très forte, les échanges par le jeu et les câlins se font naturellement. Et avec tout ça, le temps passe. Nous sommes maintenant en 2014. Luna a 2 ans et demi. Elle est toujours en famille d'accueil. Et l'instruction avance à la vitesse d'un escargot flemmard. Et là, intervient un événement qui va changer le cours de cette histoire. Enfin! Je ne vous l'ai pas encore dit, mais entre-temps, Johan et Sabrina ont eu un autre enfant. Léo, un petit garçon. Et à l'âge de 18 mois, Léo tombe malade. Même symptôme que sa grande sœur, que sa mère, que sa grand-mère et que sa tante. Un œdème à la paupière, des plaques qui apparaissent et qui disparaissent. Alors Sabrina appelle le professeur Gisèle Cani, l'immunologue qui la suit depuis toute petite, depuis qu'elle a été elle-même diagnostiquée. Professeur qui, par ailleurs, propose ses services depuis le début de cette affaire et qu'on a envoyé bouler. Et le professeur Cani fait réaliser, sur Léo, un prélèvement sanguin et un test de dépistage de l'angio-œdème. Et au passage, elle fait aussi le test à Luna. Enfin! Et le résultat, c'est qu'ils sont tous les deux, Léo et Luna, porteurs de la même maladie que leur mère, l'angio-œdème.
Il a fallu quasiment 2 ans pour que la prise de sang soit faite et que ce soit les parents qui la fassent.
Voilà, c'est ça surtout à nos propres initiatives dans le dos des services sociaux et de la justice. Oui. C'est qu'il y a quand même un problème.
C'est étrange de se réjouir de la maladie de ses enfants. Mais Johan et Sabrina ont enfin la preuve qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont pas maltraité leur petite fille. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, immédiatement, ils faxent ces résultats d'analyse au juge d'instruction et au juge des enfants qui, mois après mois, décide de prolonger le placement de Luna. Et les voilà dans le bureau du juge des enfants. Il regarde à peine les résultats des analyses. Ça ne l'intéresse pas. Et contre toute attente, au lieu de rendre Luna à ses parents, il durcit les conditions des visites de l'enfant. Il revient à 1 visite par semaine. Oui, monsieur. Les juges, en général, détestent se déjuger. C'est comme ça. Et quelques semaines plus tard, Luna fête ses 3 ans dans sa famille d'accueil. Et pour vous dire le désarroi de ses parents, à un moment donné, sur les conseils de leur avocate, ils décident de déménager pour changer de juge pour enfants. Ils s'installent dans les Vosges, mais le juge de Nancy refuse de se dessaisir. Qu'importe, ils font appel devant la cour d'appel des mineurs de Nancy. Et là, ô miracle, le procureur leur donne raison.
Je crois qu'il est temps de laisser tranquille Sabrina Dietsch et Johan Bombard. À un moment donné, il faut que la justice reconnaisse ses erreurs. Il faut que la justice fasse amende honorable.
Et le juge des enfants de Nancy est dessaisi du dossier au profit d'un juge d'Épinal. Mais dans la foulée, avant même que le nouveau juge ait à se pencher sur la décision de placement, voilà les parents devant le tribunal correctionnel. On va les juger pour violence sur mineurs de moins de 15 ans.
Sauf que d'entrée, un pédiatre vient dire « Les symptômes que Luna présentait quand elle a été hospitalisée aux urgences de Nancy correspondent tout à fait à une crise aiguë d'angioédème. » Et que le procureur enchaîne « Il existe des éléments troublants qui font vraiment penser à cette maladie. Et j'aurais aimé que ce soit nous, la justice, qui diligentions la prise de sang et non les parents de cette petite fille. » Donc, à la fin du procès, logiquement, Sabrina et Johan sont relaxés. Ils sont innocents. Ils ont mis 3 ans à le prouver. Ils n'ont pas maltraité Luna. Luna est malade, comme sa mère, comme sa grand-mère, comme sa tante, comme son petit frère. Et là, vous vous dites, ils leur rendent l'enfant, tout de suite, dans leurs petits souliers. Eh bien, non.
Malgré notre relax, Luna ne rentrera pas tout de suite à la maison. Donc on nous explique clairement qu'un enfant, vous le retire tout de suite. Mais par contre, pour vous le redonner, il faut un an et demi.
Pour commencer, le juge des enfants est en vacances, jusqu'à fin août. Alors le 13 août 2015, Johan dit à Sabrina.
Maintenant ça suffit. On va récupérer Luna nous-mêmes.
Ça tombe bien ces jours de visite. Alors ils y vont. Et ils ressortent avec Luna dans les bras. Et derrière, l'assistante sociale qui hurle.
« Qu'est-ce que vous faites? Revenez ici, j'appelle la police !»« On fuit pas à l'étranger, vous le savez. On habite juste à côté. »
Et ils montent dans leur voiture. Et ils s'en vont. Et quand ils arrivent chez eux, ils se barricadent, persuadés qu'on va leur envoyer, je sais pas moi, le GIGN. Rien ne se passe. En revanche, le lendemain, Vosges Matin titre... Ils enlèvent leur enfant. Mais finalement, le procureur ne leur cherchera pas de poux dans la tête pour cet enlèvement. Et il autorise le retour de Luna chez ses parents. Mais avec un suivi de l'aide sociale à l'enfance, Johan et Sabrina vont encore mettre 1 an à se débarrasser des assistantes sociales.
On a clairement tout raté. On a tout raté. Enfin, on n'a pas connu ses premiers pas. On n'a pas connu son premier mot, première dent. Sa rentrée à l'école. On a tout raté sa petite enfance.
Et Luna fête ses 4 ans à la maison. Mais il est clair que Luna a souffert dans cette affaire. Elle conserve de gros problèmes d'attention. Elle est souvent dans la lune.
Tu restes à côté de l'appareil photo.
Votre monsieur maintenant ? C'est une madame, un monsieur.
Et le chat, c'est un monsieur ou madame ?
Après, tu auras les dessins animés. Pose le bâton.
Oui. Je vais faire manger.
Hop, tu poses le bâton, tu feras manger après. Allez, tu viens.
Johan et Sabrina ont porté plainte contre les experts et contre l'hôpital de Nancy pour erreur de diagnostic. Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire tirée d'un livre qui vient de sortir, « Plus jamais sans toi, Luna » chez Michel Lafon, qui est l'histoire de jeunes parents qui se retrouvent accusés de maltraitance sur leur petite fille de 3 mois et qui vont mettre 3 ans à prouver leur innocence, alors que depuis le début, il plaidait que les hématomes sur le visage de ce bébé étaient sans doute dus à une maladie héréditaire que lui aurait transmis la mère, un angioédème. Mais la justice n'a pas voulu le voir, ça a pris beaucoup de temps. Ils sont là tous les deux, Johan et Sabrina Bombard. Ce livre, est-ce que c'est une vengeance vis-à-vis du système, Sabrina?
Non, je dirais pas une vengeance. Je pense que ce livre, on l'a fait entre autres pour expliquer notre histoire, déjà d'une, pour que Luna sache à quel point on s'est battu pour la récupérer.
Pour que les voisins sachent que vous n'êtes pas des salauds. Un peu.
Oui, je pense qu'ils le sauront du coup.
Ouais.
Et aussi pour espérer aussi donner du courage à toutes les familles qui vivent ça.
Johan, il n'y a pas du tout de vengeance dans cet esprit, mais ça serait tout à fait honorable. Je veux dire, vous en avez pris plein la gueule. Que vous souhaitiez vous venger est absolument naturel.
Non, alors je peux pas dire que c'est qu'on a un esprit de vengeance. Par contre, on essaye. Je repars sur ce que vient de dire Sabrina. On essaye vraiment de montrer un peu à l'opinion publique comment la machine peut s'enrayer. Ouais. Et c'était important effectivement. Qu'on dise la vérité, qu'on minimise pas, mais qu'on ne maximise pas les choses, enfin qu'on en rajoute pas, et on était au plus juste possible dans ce livre, sans manier la langue de bois.
Alors il y a deux petits points techniques médicaux qu'il faut lever tout de suite. Le premier, c'est pourquoi, alors que vous savez, Sabrina, que vous êtes porteuse de cette maladie, et que possiblement vous pouvez la transmettre à votre fille, vous n'avez pas fait un test dès la naissance. Je crois que quand on lit cette histoire, et quand on l'écoute à l'instant, quand moi je la raconte, en tout cas cette question me vient à l'esprit, moi, il me semble que si j'étais porteur d'une maladie, la première chose que je ferais à la naissance du bébé, c'est lui faire faire l'analyse pour savoir s'il en a hérité ou pas.
Alors, à la base, les médecins disent que cette fameuse prise de sang pour diagnostiquer un enfant qui est malade, on peut pas la faire avant l'âge de 6 mois, 1 an.
D'accord.
Donc c'est pour ça que, entre autres, la prise de sang n'a pas été faite plus tôt à Luna.
D'accord. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les médecins sont dubitatifs sur le fait qu'un enfant de 3 mois soit atteint par un angio-œdème?
Alors parce que la littérature, il y a peu de temps avant le début de cette histoire, disait que clairement, on ne pouvait pas avoir cette maladie ne pouvait pas se déclencher avant l'âge scolaire, donc c'est-à-dire sur les coups de 3-4 ans.
Donc ils n'ont pas tout à fait tort quand ils l'affirment.
Alors, ils ont pas tout à fait tort. Oui, non. Je vous rappelle que c'est une maladie orpheline. On avance à tâtons sur ces maladies et que il faut, en tant que médecin, se remettre en cause assez régulièrement.
Ouais. Le professeur qui vous suivait pensait qu'un enfant de 3 mois pouvait être atteint par ce syndrome?
Ah oui, oui. Elle l'a jamais écarté. Elle ne l'a jamais écarté.
C'est sa spécialité.
Oui. Oui, oui, elle est effectivement allergologue et elle a cette spécialité en plus.
Ouais. Vous ne faites pas non plus de test d'ailleurs à la naissance de Léo, toujours pour la même raison.
Oui, tout à fait. Toujours pour la même raison.
Alors que là, c'est tentant parce que à la naissance de Léo, vous vous dites tout de suite, oh, si lui est porteur, on a au moins la preuve pour. Johan.
Oui, pour qu'on puisse être innocenté potentiellement. Ouais. Effectivement, mais le souci c'est que même si on aurait demandé la prise de sang, c'est une prise de sang qui est assez spécifique. On pouvait pas aller la faire dans n'importe quel labo. Et de toute façon, il fallait un médecin qui soit prescripteur. Donc on en revenait un peu à la même situation dans tous les cas. Donc
Sabrina.
Oui, et en plus, généralement les médecins font une prise de sang quand ils commencent à avoir des symptômes.
Oui.
Donc tant qu'il y a pas de symptômes. Mmh. Il ne faut pas la prise de sang.
D'accord. C'était le piège dans lequel vous étiez, quoi.
Ouais.
C'est ça, tout à fait.
Pourquoi est-ce que les policiers de la brigade des mineurs qui vous placent l'un et l'autre en garde à vue vous laissent repartir? Parce que là, il y a un petit mystère. C'est pas la logique. Normalement, on est placé en garde à vue, on est déféré chez le procureur, déféré chez le juge d'instruction et mis en examen. Les questions qu'ils vous posent laissent entendre qu'ils sont convaincus de votre culpabilité. On est d'accord, hein, Johan?
Ah oui, de toute façon, je le martèle, il n'y avait pas de présomption d'innocence. C'était une présomption de culpabilité. Donc, il fallait nous faire avouer à tout prix. On était solides tous les deux et on a raconté la vérité. Donc, il y avait vraiment rien pour qu'on puisse être déféré devant le juge d'instruction. À savoir que de toute façon, le juge d'instruction n'a pas été saisi tout de suite, on est ressorti libre sans contrôle judiciaire, c'est pareil. On nous accuse d'être des bourreaux d'enfants et puis on vous laisse libre sans même un contrôle judiciaire.
De rentrer à la maison. Comment est-ce que vous la vivez, cette garde à vue, Sabrina?
Ça a été très très compliqué parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais malade. Donc,
vous faisiez une crise d'angio-œdème.
Ouais, je faisais une crise d'angio-œdème en garde à vue. Et on m'a laissé clairement souffrir et être malade en garde à vue. Alors qu'un médecin en plus était venu me voir.
Oui.
Et ce médecin a dit que j'étais parfaitement apte à la garde à vue.
Oui. Alors là, vous n'avez pas à avoir de chance toute cette histoire avec les médecins. Globalement, sauf votre professeur. Cette garde à vue, vous la vivez comment, Johan, vous?
Écoutez, moi je la vis très mal.
C'est pas votre première.
Si. Effectivement, vous l'avez dit, j'ai été connu malheureusement pour avoir été violent auprès de mon ex-conjointe, mais c'était de la violence réciproque sous une séparation qui était très difficile.
Oui, elle a fait l'objet d'un rappel à la loi, elle aussi.
Elle a été condamnée.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, elle a été condamnée, alors elle n'a pas été condamnée à de la prison, non. Elle, contrairement à vous, mais elle fait l'objet d'un rappel à la loi, c'est-à-dire qu'elle a quand même une condamnation, donc vous vous êtes empaillés tous les deux, bon bref, on ne rentre pas dans les détails, mais bon, vous avez un casier.
Oui, voilà, effectivement, j'ai un casier.
Voilà, mais bon, c'est quelque chose qui reste quand même nouveau pour moi. Je suis pas un grand délinquant, je sors pas du grand banditisme, et voilà. Et moi je le subis, mais je le subis à travers Sabrina, que je vois malade, excusez-moi du terme, comme un chien en geôle, et ça m'arrachait.
Vous êtes ensemble en geôle?
Non, du tout.
On est à l'opposé, mais on se voit parce qu'il y a des petites meurtrières dans les geôles, et on se voit à travers.
Et
à
vous
travers
vous parlez le soir?
Non,
on s'est entrecroisé dans des couloirs, et il m'est arrivé de lui dire je t'aime, parce qu'elle savait lire sur les lèvres.
Ouais.
Et ils ont tout de suite mis la main sur les vidéos en pensant qu'on complotait entre nous, et que c'est voilà.
Question, je vous demande d'être très franc là-dessus. Est-ce qu'il y a un moment où vous doutez l'un de l'autre? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous instille l'idée, Sabrina, que peut-être Johan, en faisant l'avion, puisque c'est ça qu'on lui reproche, c'est-à-dire ce que tous les parents font à peu près avec les bébés, ou les font jeter en l'air et les rattrapent, ça les fait rigoler, les bébés. Est-ce que vous doutez de Johan à un moment?
Il arrive un moment, il y a eu ce petit... En fait, pendant la garde à vue, j'ai eu un petit temps blanc, et à ce moment-là, ils ont senti qu'il y avait une faille. Et du coup, ils se sont engouffrés dedans, et ils me faisaient clairement comprendre, mais dites-le, hein, si c'est lui, vous, on vous redonne votre petite, ou on vous la retire pendant 6 mois, et puis après, c'est réglé. Donc, et je pense qu'ils ont senti ce moment d'hésitation avant que je réponde que non.
Ils sont engouffrés dans la brèche.
Ils sont quand même engouffrés dans la brèche.
Mais vous avez un doute ou pas? Réellement.
J'en ai eu un petit, mais...
Il rigole, Johan, en face.
Mais il le sait, hein, il le sait. Pourtant, on est très très honnêtes entre nous. Et non, mais ça a été un doute de l'espace, même pas de 30 secondes.
Ouais.
Et après, je le connais, je sais comment il est.
Parce que l'homme est complexe. Ça peut arriver.
Oui.
Qu'il l'ait fait tomber, même sans faire exprès, qu'il lui ait donné un coup parce qu'il ne se maîtrisait pas. C'est-à-dire que cette hypothèse existe malgré tout. Et vous, est-ce que vous doutez de Sabrina? Pendant votre garde à vue.
Je suis très déçu de ce que dit Sabrina.
Parce que vous ne doutez pas.
Non, je ne doute. Je n'ai pas douté aucunement de ces dépositions auprès des policiers. Moi, c'est pareil. Hein, j'ai eu des choses qui étaient presque toutes présentées de la part des policiers en me disant, elle en avait marre, elle pleurait, elle avait envie qu'elle se taise, elle lui a mis une gifle. Enfin voilà. Et non, moi, j'ai jamais eu le moindre doute. Ils ont même essayer de effectivement titiller une petite faille parce que Sabrina était une jeune maman.
18 ans, hein.
Oui.
Tout ça, faut remettre dans le contexte de votre âge, parce que je vous regarde là, vous avez l'air très jeune, alors c'est très drôle, vous avez l'air plus jeune encore que Sabrina, alors qu'en vérité vous avez 3 ans de plus qu'elle, c'est ça, ou 4 même.
Merci.
Johan, mais vous avez toujours l'air gamin, donc j'essaye de me projeter il y a 5 ans, et là vous étiez 2 gamins.
Oui, alors,
totalement.
J'essaye de remettre un peu les choses dans le contexte. J'étais papa depuis déjà quelques années. J'avais fait mes preuves, oui. Moi. La police avait entendu toutes les parties prenantes, et il en était résolu qu'il n'y avait aucun danger, et que j'avais jamais eu le moindre doute avec ma première fille.
Vous pensez d'ailleurs que c'est votre âge, 18 ans, Sabrina, qui joue en votre défaveur? On se dit, enceinte si jeune, c'est pas normal.
Ah oui, je pense que mon âge a dû jouer dans la balance. Ouais,
ouais.
Après, de toute façon, quand ils font un signalement, il y a toute une partie de critères. Donc forcément, le jeune âge, c'est un des critères.
C'est une case à cocher.
Ouais, c'est une case à cocher. Exactement.
Et le fait que vous soyez DJ, vous pensez que ça a joué aussi, Johan?
Oui, bien sûr. Après, le milieu de la nuit, vous devez connaître un peu la réputation de ce milieu du milieu de la nuit.
Qui est pas toujours usurpé d'ailleurs.
Non, bien sûr, bien sûr. Après, c'est un métier comme un autre. Je travaillais effectivement plus moi. Pour moi, c'est du spectacle. Enfin, donc oui, ça a forcément joué. Mais je vous assure que même à cette époque-là, j'avais pas la tête d'un loup-bar ou. Enfin bon, voilà. C'est. Mais je suis persuadé qu'effectivement, c'était une case en plus à cocher. Dis ce que je. Okay.
Des réactions sur Twitter, je vous en lis une de Alix Fèvre. On n'a jamais vu autant de zèle pour de vrais parents maltraitants. Où en est la procédure pour erreur? Si on commençait par répondre à cette question, où en est la procédure pour erreur? Vous avez donc attaqué et les experts et l'hôpital pour le mauvais diagnostic qui était leur. On va dire en mot de ça des experts dans un instant, mais où en est la procédure, Sabrina?
Alors, au niveau de la procédure contre les experts, actuellement, elle est en cours. Donc, ils sont en train, avec les avocats, ils sont en train de s'échanger
les conclusions.
Les conclusions. Mmh. Et normalement, d'ici quelques mois, on espère avoir une date pour une audience.
Pour une audience. Vous savez que vous perdrez. Jamais personne n'a fait condamner le moindre expert en France, il me semble.
Si. Pourquoi pas ? Eh ben pourquoi pas ?
Si.
Pourquoi pas ?
On arrive avec un dossier qui est pour le coup bien rempli et on espère que ça sera la première.
Ah, il y a deux expertises qui ne jouent pas en votre faveur. La première est une expertise, alors je pensais qu'elle était psychologique, moi, en vous lisant. En fait, c'est un expert psychiatre qui dit, alors moi ça, on hallucine quand on lit ça. Luna présente des troubles d'origine psychologique, réaction à des traumatismes ayant eu lieu avant le placement. Il a vu Luna, cet expert. Et c'est à partir de là qu'il conclut cela ?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, cet expert a rencontré Luna et...
Un an et demi, au moment de l'expertise.
Oui. Ouais.
Et donc il conclut, en voyant une petite fille d'un an et demi qui ne parle pas, donc, que le traumatisme remonte à avant le placement.
Oui, oui, tout à fait.
Et comme il est expert, évidemment, on peut pas contester ça.
Non, c'est ça. C'est tout là la problématique en France, c'est qu'effectivement les experts sur cette échelle judiciaire ont le plein pouvoir. Et puis vous êtes pas grand chose et vous ne pouvez plus rien faire derrière cette expertise à part demander évidemment une contre-expertise
que vous n'avez pas obtenue.
Qu'on n'a pas obtenue, non.
Oui, parce qu'on ne l'obtient pas systématiquement. Ça serait une sacrée avancée du droit que d'autoriser les avocats de la défense à demander une contre-expertise et à choisir eux-mêmes l'expert. De manière à ce qu'il n'y ait pas collusion entre les deux experts.
Tout à fait, tout à fait, mais à cette heure-ci...
Vous l'avez demandé ?
On l'a demandé.
La contre-expertise.
Ah ouais.
Tout à fait, et elle n'a pas eu lieu.
Vous l'attaquez, cet expert-là. On donne pas son nom, hein. c'est pas nécessaire. Oh, je crois qu'il faut pas faire de. Enfin voilà, il faut pas aller au-delà. D'abord parce que vous pourriez être accusé de diffamation et que c'est pas indispensable. Et moi avec vous. Mm-hmm. Mais donc vous le poursuivez nommément cet expert-là.
Tout à fait. Comme on poursuit également le CHU de Nancy. Là, ça s'est fait il y a très peu de temps pour les fautes
les erreurs
de diagnostic. Tout à fait. Donc ça se passe devant le tribunal administratif. On espère on espère que ça sera quelque chose une procédure qui sera rapide et qu'on puisse reconnaître également leur erreur devant ce tribunal.
Vous n'avez pas été à ce stade indemnisé en aucune manière ?
Non, absolument pas.
Comme disait Maître Dupond-Moretti il y a quelques jours sur un plateau. Non, ce n'est pas notre avocat, nous l'avons
rencontré. Dommage pour vous.
Mais pourquoi pas ? Non, pourquoi pas ?
Dommage pour vous, vraiment.
Mais effectivement, on fait partie des 501, des 502 qui ne pourront pas déposer une demande parce qu'on n'a pas été emprisonné, tout simplement.
D'accord, oui. D'indemnité, mais enfin vous pouvez obtenir au titre du préjudice que vous avez subi au civil une indemnisation.
Voilà, c'est pour ça qu'on lance ces procédures, tout à fait.
Alors le deuxième expert, alors ça c'est intéressant parce qu'on en revient à la littérature médicale. Le deuxième expert c'est un pédiatre et on lui dit est-ce qu'un enfant de 3 mois peut contracter un angioédème ? Et il répond ?
Non.
Et il le répond pourquoi ?
Et ben en fait, il va répondre que Luna ne peut pas être atteinte de cette pathologie, du moins qu'elle n'a pas pu déclencher les symptômes de cette pathologie aussitôt, parce que cette pathologie ne se déclenche pas avant l'âge pubère.
Et il en reste à ça parce que la littérature médicale dit ça à cette époque-là ?
Oui.
Ou parce qu'il n'est pas au courant des petites avancées qu'il y a eu récemment ?
Non, et puis alors, je pense surtout, vous avez mis le doigt dessus tout à l'heure, c'est que c'est une corporation,
oui.
Et qu'il y a un moment, on peut pas aller contredire son collègue aux cheveux blancs qui a 60 ans
qui est chef du service des urgences pédiatriques
voilà,
à Nancy.
Tout à fait. Et en plus, ces expertises ont lieu dans deux régions très proches, ils se connaissent forcément.
En même temps, vous acceptez l'idée que aucun métier n'est infaillible et qu'un médecin pédiatre ait pu passer à côté. Ça, c'est possible.
Ah oui.
Oui, alors on l'accepte. Par contre, sur cette deuxième expertise, il y a quand même un mais, c'est que il y a cet expert qui fait cette deuxième expertise, qui est spécialiste de cette pathologie. Et là, on comprend beaucoup moins bien pourquoi il n'a pas réussi à diagnostiquer Luna.
Alors, le juge pour enfants est un personnage intéressant de Nancy. Parlez-moi de lui un peu. J'aimerais savoir s'il est jeune ou vieux.
Alors là, on va parler du dernier juge des enfants qu'on a eu sur Nancy.
Celui qui, malgré le fait que vous produisiez ces analyses médicales qui vous dédouanent, maintient le placement de Luna.
Tout à fait, tout à fait. Ce monsieur, il doit avoir une quarantaine d'années, je dirais,
c'est pas,
à peu près.
Parce que les juges pour enfants sont souvent jeunes. Oui. Hein, c'est souvent le premier poste d'affectation d'un jeune magistrat. C'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas. Il était dans une autre magistrature avant et il est revenu sur Nancy.
À quoi est-ce que vous attribuez ce refus de regarder le papier que vous lui tendez, qui est la preuve que vous êtes innocent?
Moi, j'ai mon opinion, c'est une opinion, mais je suis persuadé que c'est parce que c'est nous qui diligentons cette prise de sang, et c'est d'ailleurs, il va nous le faire comprendre, puisqu'il nous retire, après cette prise de sang, tous les droits concernant Luna, donc les droits d'hébergement et de visite.
Et la deuxième visite.
Tout à fait.
Il réduit votre visite. Je renvoie à votre livre « Plus jamais sans toi, Luna », Sabrina et Johan Bombard.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.